VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Merci d'écouter VOA Afrique, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 29 juillet 2016, en direct de Washington, Bagassi Koura. L'histoire a été encore faite hier à Philadelphie, berceau il y a 240 ans de la nation américaine. Pour la première fois, une femme, Hillary Clinton, a été investie officiellement candidate d'un des deux grands partis des États-Unis à la présidentielle de novembre prochain. Compte rendu de l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Idrissa Seydou Dia.
And so, my friends, it is with humility, determination and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination.
Hillary Clinton acceptant hier son investiture devant les délégués à la Convention démocrate avant de prononcer probablement le plus important discours de sa vie politique.
Now America is once again at a moment of reckoning.
L'Amérique est de nouveau à un tournant, des forces puissantes menacent de nous déchirer, les liens de confiance et de respect sont en train de se frayer, et tout comme nos pères fondateurs, il n'y a aucune garantie. Cela dépend réellement de nous. Nous devons décider si nous allons travailler ensemble afin de pouvoir nous relever tous ensemble. Madame Clinton a souligné qu'elle ne se fait aucune illusion sur les défis que doit relever son pays, mais a-t-elle ajouté, nous n'avons pas peur. Nous relèverons le défi comme nous l'avons toujours fait. Revenant sur le discours de son rival républicain la semaine dernière à Cleveland, elle a accusé Donald Trump d'être un facteur de division, les uns contre les autres ici et l'Amérique et le reste du monde.
He's betting that the perils of today's world.
Il parie que les périls du monde d'aujourd'hui vont nous aveugler et nous mener à croire à ses promesses sans limite. Il a engagé le Parti républicain sur un long sentier, de c'est l'aube en Amérique à c'est minuit en Amérique. C'était là un appel, on ne peut plus clair, aux électeurs républicains que leur candidat met mal à l'aise, ainsi qu'aux indépendants. Il a rappelé ce qu'avait dit l'ancien président Franklin Roosevelt. La seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. Madame Clinton a abordé les problèmes économiques et sécuritaires, tant intérieurs qu'extérieurs. La diversité de l'Amérique, son dynamisme, sa jeunesse généreuse, sa puissance militaire, ses entreprises qui innovent, ses valeurs durables de liberté, d'égalité, de justice et d'opportunité ne permettent pas de dire que l'Amérique est faible. Et quand quelqu'un dit qu'il peut à lui seul régler tous nos problèmes, cela devrait être un avertissement pour tous. En politique étrangère, le choix est tout aussi difficile et les nouvelles nous rappellent tout le temps les menaces et les troubles auxquels nous sommes confrontés.
From Baghdad to Kabul to Nice and Paris and Brussels.
De Bagdad et Kaboul à Nice et Paris et Bruxelles et San Bernardino et Orlando, nous faisons face à des ennemis déterminés qui doivent être défaits. Elle a reconnu que les gens sont rongés par l'anxiété, ils veulent être rassurés et aussi un leadership stable. Elle a assuré que le mur promis par Donald Trump pour lutter contre l'immigration clandestine ne sera pas construit. Elle construira plutôt une économie pour tous ceux qui voudront un emploi qui paie bien et travaillera à un processus pour régulariser la situation des clandestins. Elle n'interdira aucune religion et elle travaillera avec tous les Américains et leurs alliés pour combattre le terrorisme. Madame Clinton, consciente de son image plutôt négative, a tenu à raconter ses humbles origines, l'histoire de ses grands-parents pauvres et de sa mère qui, enfant, avait été abandonnée par ses propres parents, ce qui explique le travail qu'elle a fait très tôt pour les enfants. Elle a ensuite reconnu l'étape historique qui vient d'être franchie avec son investiture à Philadelphie. Revenant sur Donald Trump, elle a contesté ses affirmations selon lesquelles il est un grand homme d'affaires, donc quelqu'un qui doit connaître les affaires économiques, en citant la gestion de ses casinos à Atlantic City. Elle lui a reproché de parler de l'Amérique d'abord ou restituer sa grandeur à l'Amérique alors que des produits qu'il vend sont fabriqués en Chine, au Mexique, en Turquie ou en Inde. Quant aux qualifications de M. Trump en tant que commandant en chef, elle a parlé du tempérament de quelqu'un qui a du mal avec les rigueurs d'une simple campagne électorale et perd son cool avec, par exemple, une journaliste dont il n'aime pas la question. Et elle a dit avec sarcasme:
Imagine him in the Oval Office facing a real crisis.
Imaginez-le dans le bureau ovale face à une crise réelle. Un homme que vous pouvez provoquer avec un tweet n'est pas un homme à qui l'on devrait faire confiance avec des armes nucléaires, a dit Madame Hillary Clinton. Idrissa Seduga à Philadelphie, en Pennsylvanie.
Voilà, Hillary Clinton qui a donc accepté sa nomination comme candidate du Parti démocrate pour l'élection du 8 novembre prochain. Écoutons donc quelques réactions à la fin de son discours.
Je pense que c'est le meilleur discours qu'elle n'a jamais prononcé. Ça montre bien qu'elle avait énormément de pression sur les épaules, mais en fait, elle a été au-delà de mes espérances. Donc, je pense qu'elle sera vraiment une présidente très forte. Je pense que c'était une très belle nuit à refléter ce qu'est vraiment le Parti démocrate et qu'on se soucie des uns des autres. Alors, je suis assez fière, elle nous a inspirés et c'est le genre de président que je veux. J'ai adoré. J'ai adoré parce que, en étant une personne de couleur, son discours m'a parlé. Je suis aussi un jeune entrepreneur du Minnesota. J'ai ressenti qu'il y avait de l'espoir.
Voilà, c'était donc quelques réactions recueillies par l'une de nos envoyées spéciaux, Tatiana Mosso. Et puis témoin et invité de cette grand-messe des démocrates, plusieurs représentants africains. Eh bien, Tatiana Mosso, l'une de nos envoyées spéciaux, a rencontré l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, Daouda Diabaté.
Nous considérons que les États-Unis constituent un modèle de démocratie et nous estimons que nous pouvons apprendre beaucoup auprès de ce grand pays ami. Nous avons observé, nous avons vu la façon dont les choses se sont déroulées en matière d'organisation d'abord, parce qu'il y a beaucoup de monde et malgré le nombre très élevé de participants, nous avons constaté que tout était organisé de façon méthodique.
De tous les discours, il y a eu quand même un parterre de personnalités politiques démocrates prestigieux, de la première dame au vice-président, au colistier d'Hillary Clinton, ou encore au président Barack Obama qui s'est exprimé au troisième jour de cette convention. Quel est le discours, par exemple, qui vous a le plus marqué ?
Michelle Obama, qui nous a énormément marqué. Et pour avoir participé à la convention de Charlotte en 2012, je me suis dit que c'est le retour de l'ascenseur. Parce que nous avons à cette occasion constaté la façon dont les Clinton, et particulièrement le président Bill Clinton, s'étaient investis dans la campagne du président Obama. Et aujourd'hui, c'est vraiment le retour de l'ascenseur, le couple présidentiel Obama s'investit à fond et la première dame, Michelle Obama, a fait une intervention particulièrement remarquée. Vraiment, ça nous a impressionnés. Et le président Obama a fait une intervention vraiment qui se passe de commentaire. Et on se rend compte qu'il n'a absolument rien perdu de son éloquence, de sa force de conviction. Et je puis dire que nous sommes venus, nous avons appris non seulement du point de vue organisation, mais également en ce qui concerne la substance, le contenu des discours qui ont été délivrés. Et nous, Africains, nous attendons à ce que les États-Unis continuent de renforcer leur coopération avec les pays africains et que le meilleur gagne, j'allais dire.
Voilà, c'était donc Daouda Diabaté, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire ici à Washington. Plus d'infos sur notre site voafrique.com et aussi sur notre page Facebook.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Voilà le reste de l'actualité. D'abord sur le continent africain, en RDC, la majorité présidentielle tient son meeting prévu ce vendredi au stade Père Raphaël de Kinshasa. un meeting dit de vérité pour réaffirmer, entre autres, le soutien au dialogue national et qui s'organise deux jours avant celui de l'opposition. André Alain Atundu, le porte-parole de la majorité présidentielle, revient ici sur l'objectif de ce meeting. Il est au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est un appel. C'est un appel de la majorité présidentielle à l'opinion pour soutenir le combat politique du président Kabila pour le processus électoral, notamment par l'enrôlement et par le dialogue qui est la voie aujourd'hui obligée pour aboutir à des élections apaisées et à une période post-électorale non violente.
On reste en RDC où les autorités judiciaires et sécuritaires ont qualifié de machination les accusations de pression formulées mercredi par la présidente du tribunal ayant condamné en juin l'opposant Moïse Katumbi à 3 ans de prison. Mercredi, la juge Chantal Ramazani Ouazouri a dénoncé dans une lettre des pressions exercées sur elle par des autorités congolaises en vue d'écarter Katumbi de la présidentielle censée avoir lieu avant la fin de l'année. Les magistrats maliens sont en grève à l'appel de leur syndicat pour réclamer une hausse de leur salaire, des indemnités et l'octroi de primes de risque. On fait le point avec vous, Arzuma Compaoré.
La grève a été déclenchée mercredi pour 3 jours. En principe, elle se termine aujourd'hui. Le syndicat autonome de la magistrature, SAM, a lancé ce mot d'ordre pour réclamer des augmentations de salaire, des indemnités de logement et l'octroi de primes de risque et de recherche. À Bamako, le fonctionnement de plusieurs tribunaux a été perturbé. Des syndicalistes avaient érigé des piquets de grève bloquant l'accès aux lieux de travail. Cheikh Mohamed Sherif Kone, un leader syndical, a assuré que le mouvement était suivi à 100% sur toute l'étendue du Mali, qui compte 573 juges, dont 450 sont membres du SAM. Mamadou Ismaël Lakonate, ministre de la Justice, a expliqué que les discussions avec les magistrats n'ont pas abouti, mais que plusieurs de leurs revendications ont été satisfaites.
Voilà, la lutte contre le terrorisme était hier au cœur des débats au 5e sommet Côte d'Ivoire au Burkina Faso qui marque la première visite officielle du président burkinabé Roch Kabore chez son voisin ivoirien. Et toujours en Côte d'Ivoire, la grève est suspendue à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Après de violentes manifestations qui ont paralysé l'institution, les cours ont repris afin d'ouvrir des négociations avec le gouvernement. La Cour constitutionnelle gabonaise a rejeté les recours contre la candidature du chef d'État Ali Bongo Ondimba à l'élection présidentielle du 27 août. L'élection présidentielle au Gabon est un scrutin à un seul tour et Ali Bongo est donné en tête. Au Sénégal, plusieurs organisations de défense des droits humains saluent la mesure du gouvernement sur le retrait de la rue des enfants. Toutefois, elles encouragent Dakar à ouvrir des enquêtes pour châtier les auteurs de l'exploitation de ces mineurs. Robert Mugabe met ses menaces à exécution. Confronté à un mouvement de contestation inédit, le président zimbabwéen a fait arrêter 2 responsables de l'association des anciens combattants du pays. Ces derniers avaient osé critiquer le président au pouvoir depuis 36 ans. Le Soudan du Sud est au bord du gouffre, déclaration du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon qui exhorte les dirigeants sud-soudanais à s'engager en faveur de la paix. L'ONU a recensé au moins 120 cas de viol depuis la recrudescence des affrontements il y a 3 semaines à Djouba entre l'armée gouvernementale et les partisans de l'ex-chef rebelle Riek Machar. C'est la pire sécheresse en 35 ans en Afrique australe. Des agences humanitaires demandent plus d'1 milliard de dollars pour aider des millions de personnes dont les ressources alimentaires sont épuisées et leur accès à l'eau potable limité. Les forces des autorités libyennes non reconnues ont repris hier aux djihadistes un quartier de Benghazi, la 2e ville du pays. Une reprise qui intervient après 3 jours de combats qui ont fait 6 morts dans leur rang, selon une source militaire libyenne citée par l'AFP. Ce mea culpa dans la lutte contre le terrorisme, la coalition internationale contre le groupe État islamique a reconnu hier de nouvelles victimes civiles dans des bombardements en Irak et en Syrie ces derniers mois, ce qui porte à 55 le nombre total de victimes officiellement reconnues depuis le début de la campagne. Et c'est dans ce contexte que la Russie, alliée du président syrien Bachar al-Assad, a annoncé ce jeudi des couloirs humanitaires pour permettre aux civils et combattants de sortir des secteurs rebelles de la métropole d'Alep, assiégée et bombardée sans relâche par le régime. Et puis confrontée à des arrivées massives sur ses côtes, l'Italie multiplie les initiatives pour faire avancer son migration compact, un plan destiné à endiguer le flux.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Koura de retour avec vous sur VOA Afrique en direct de Washington. Nos dossiers du jour. Le retrait des enfants de la rue a pris une nouvelle tournure depuis quelques jours à Dakar au Sénégal. Ce sont des personnes vivant avec un handicap qui ont été arrêtées pour mendicité. Leur procès s'est tenu ce mercredi et elles ont été relaxées. Mais pour la défense et les associations des personnes handicapées, le combat vient de commencer pour redonner de la dignité à cette couche vulnérable. De Dakar, la correspondante de Sokhta Nata Mbaye.
Vendredi dernier, ils étaient 7 à avoir été interpellés par la police. Un homme et 6 femmes, tous des handicapés moteurs. Le procureur avait requis 10 jours de prison avec sursis et finalement, aucune charge n'a été retenue contre eux. Après s'être félicité du verdict, l'avocat de la défense veut se focaliser sur l'article du code pénal qui a valu à ces personnes 5 jours derrière les barreaux avant d'être jugés. Maître Mbaye Jack Ndiaye.
Je voudrais dire que cet article 245-là est une disposition pénale qui est obsolète, anachronique, désuète. C'est une loi qui a été mise en place par le colon pour empêcher les démunis d'accéder au centre-ville où ils vivaient. J'ignorais que cette loi existait encore dans le code pénal parce que, à ma connaissance, depuis 15 ans d'exercice, c'est la première fois que je vois des personnes traîner devant la barre pour le délit de mendicité dans un pays dans lequel l'État lui-même n'a mis en place aucun système permettant à ces personnes-là de ne pas du tout sombrer dans cette déchéance.
Mieux, Yatma Fall veut que cette loi soit abrogée. Il est le président de la Fédération des associations de personnes handicapées.
Notre combat va continuer d'abord pour l'abrogation de cette loi. Et le combat aussi va continuer pour que ces rafles, ces violences faites sur les personnes handicapées qu'on emprisonne à tort cessent.
Selon des informations, le président Macky Sall n'aurait pas apprécié l'arrestation puis le jugement de ces handicapés mendiants. Officiellement, la lutte contre la mendicité ne concerne que les enfants mendiants. Sornana Tambay Dakar, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Sénégal, à Dakar, sur 102 FM.
Voilà, les questions de sécurité maritime et de la paix en Afrique ont rassemblé à Lomé ces deux derniers jours des experts en la matière sous l'égide du Centre Carter. Une rencontre dénommée Consultation Afrique-Chine-États-Unis pour la paix. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Pour la première fois, la consultation Afrique-Chine-États-Unis pour la paix s'est tenue en dehors du territoire américain. En effet, dans le cadre du sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime, le Togo a organisé les 27 et 28 juillet la dite consultation. Deux sujets essentiels ont été abordés lors de cette réunion tenue à huis clos. Il s'agit de la sécurité maritime et l'économie bleue dans le golfe de Guinée et de la promotion de la paix dans le Sahel. Kofi Kpae, directeur des affaires politiques au ministère togolais des Affaires étrangères.
Nos mers et nos océans regorgent d'énormes ressources qui doivent en principe contribuer au développement, créer la richesse, mais les pays africains ne tirent pas le maximum de profit de ces océans et de ces mers. Donc comme le Togo accueille ce sommet, les consultations constituent un prélude important pour les acteurs togolais de faire valoir leur point de vue, de proposer des pistes de réflexion sur les problèmes qui minent la sécurité maritime. Et la deuxième thématique, notamment la promotion de la paix au Sahel, intéresse à plus d'un titre. Aujourd'hui, le Sahel est confronté à des problèmes d'ordre sécuritaire et ces violences qui sévissent aujourd'hui au Sahel ne sont pas loin des côtes africaines.
Dirigée par le Centre Carter, la consultation vise à promouvoir une réflexion collective sur les problèmes communs et surtout à identifier des domaines concrets de collaboration. Jordan Ryan, vice-président des programmes de paix au Centre Carter.
Maritime security, especially in the Gulf of Guinea.
La paix dans le Sahel et la sécurité maritime et l'économie bleue sont des sujets sur lesquels la Chine, l'Afrique et les États-Unis peuvent bien collaborer. Les intentions du Centre Carter sont de promouvoir la paix et de construire de l'espoir. Et donc, dans le domaine de la sécurité et paix en Afrique, nous pensons qu'il y a beaucoup de potentiel. Nous croyons que l'expertise est déjà présente avec les acteurs locaux. Donc, dans la plupart des programmes sur lesquels nous travaillons, les acteurs locaux, c'est eux qui mènent les projets. La sécurité est un problème, que ce soit sur le continent africain, ça a des conséquences partout dans le monde.
And to the fact that that gets reflected in Africa, that's a concern for the entire world.
Présent à Lomé dans le cadre de cette consultation tripartite, le chef bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a salué la synergie avec laquelle les pays du Golfe de Guinée font front contre l'insécurité maritime. Mohamed Ibn Chambas.
Nous, aux Nations Unies, nous soutenons cette approche de conjuguer les efforts des pays du Golfe de Guinée pour faire face aux défis sécuritaires maritimes. Les Nations Unies vont continuer de travailler avec les pays de l'Afrique pour faire face aux défis sécuritaires maritimes. Donc, cette réunion peut apporter des perspectives, des bonnes idées pour le sommet qui va se tenir ici à Lomé.
La consultation Afrique-Chine-États-Unis pour la paix a été initié en 2014 à l'issue des entretiens entre l'ancien président américain Jimmy Carter et le président chinois Xi Jinping. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Voilà, direction le Niger à présent, où le PAM, le Programme alimentaire mondial, risque de suspendre sa distribution de rations alimentaires à des centaines de milliers de réfugiés fuyant les exactions de Boko Haram. De Niamey, on fait le point avec Abdul Razak Idrissa.
Le Niger vit une situation humanitaire critique. Plus de 200 000 personnes déplacées et réfugiées fuyant les atrocités de la secte Boko Haram, venues s'ajouter à des centaines d'autres déjà éprouvées dans la région de Difa. 50 000 autres réfugiés sont dénombrés dans la région de Tillabéri, frontalière avec le Mali. Pour tout cela et pour les autres populations, il faut une assistance. Les organismes du système des Nations Unies qui appuient l'État dans ce sens, comme le Programme alimentaire mondial, sont pratiquement à bout de souffle. Benoît Thierry, représentant du PAM au Niger.
Le PAM mène différents programmes au Niger et nous avons de plus en plus de difficultés à trouver des fonds. Et là, nous donnons des demi-rations et à partir du mois de septembre, nous n'avons plus de fonds pour continuer. Également, les réfugiés maliens, la région de Difa étant un peu mieux supportée parce que les urgences ont toujours plus d'impact au niveau des donateurs.
Cette rareté des fonds, le représentant du PAM en a parlé aux autorités nigériennes qui ont à leur tour réuni autour d'une table les donateurs pour leur demander des efforts supplémentaires en faveur du PAM. Bazoum Mohamed, Premier ministre par intérim.
C'est d'un montant de ressources additionnelles d'un peu plus de 20 millions que nous avons besoin au profit du PAM pour que celui-ci, en rapport avec nous, puisse continuer ses activités ô combien importantes et combien utiles, comme la nutrition, les cantines scolaires, la création d'actifs productifs, de soutien à la prise en charge des réfugiés et des déplacés pour le restant de l'année.
À l'issue de la rencontre, des engagements ont été pris pour une réponse rapide, rassurant pour le représentant du PAM au Niger, Benoît Thierry.
Bien sûr, je suis optimiste. Je pense que ça a un impact. Quand le gouvernement montre son appréciation comme ça pour nos programmes, ce sont des messages important pour nous et je suis sûr que ça va nous permettre de continuer à assister les populations les plus vulnérables au Niger.
Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec John Lindon.
Pékin accueille ce vendredi les assises du Forum sur la coopération sino-africaine. Cette rencontre, coprésidée par l'Afrique du Sud et la Chine, rassemble environ 400 délégués chinois et africains chargés du suivi des engagements pris par Pékin et les pays du continent lors de l'édition de l'année dernière tenue à Johannesburg en Afrique du Sud. L'on annonce cette année la signature de protocoles d'accord pour au moins 39 projets de coopération d'une valeur d'environ 17 milliards de dollars. 45 millions de dollars entre janvier et juin 2016, c'est le montant des redevances payées par les sociétés minières en activité en République démocratique du Congo, soit un recul de 35% comparé à la même période de l'année dernière où la RDC avait encaissé près de 70 millions de dollars. La plupart des indicateurs économiques du pays sont au rouge. La croissance, elle, devrait toutefois être de plus 6% cette année. Le Trésor ivoirien veut inciter les populations à ouvrir des comptes bancaires. Une campagne de sensibilisation sur la bancarisation a donc à cet effet été lancée hier afin d'accroître le taux de bancarisation. En 2015, le taux de bancarisation était d'environ 16% et les dépôts bancaires n'atteignaient que 26% du produit intérieur brut.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports.
Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nicolas Pinault. Repos au championnat d'Afrique des nations de basketball des moins de 18 ans, c'est à Kigali au Rwanda.
Aucun match hier, mais rendez-vous tout à l'heure pour les quarts de finale à Kigali, la capitale rwandaise. La Côte d'Ivoire affronte l'Angola, l'Algérie contre l'Égypte, la Tunisie face au Rwanda et la République démocratique du Congo contre le Mali.
Et la Fédération argentine de football qui veut convaincre Messi.
Oui, Armando Pérez, un responsable de la Fédération argentine de football, va se rendre en Espagne pour convaincre Lionel Messi de sortir de sa retraite internationale. On se souvient que Messi, quintuple ballon d'or, avait mis fin à sa carrière internationale après la défaite au tir au but de l'Argentine face au Chili. C'était en finale de la Copa América en juin, un second revers de suite à ce stade de la compétition. Après la Catalogne, Pérez a prévu de se rendre en Andalousie pour une autre mission tout aussi périlleuse, rencontrer Jorge Sampaoli, l'entraîneur de Séville, dans l'espoir de le convaincre de reprendre en main la sélection argentine.
Rien ne va plus hein, aux Zamalek du Caire.
Et oui, Mohamed Elmi, l'entraîneur du Zamalek, l'un des deux clubs de football phares de l'Égypte, a démissionné après la défaite mercredi à Pretoria contre les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns en Ligue des Champions, 1-0. Par ailleurs, le Zamalek a suspendu son capitaine Azem Emam et l'a placé sur le marché des transferts après que ce dernier eut menacé un coéquipier avec un couteau de table avant la rencontre. C'est ce qu'avait affirmé mercredi soir le président du club, Mortada Mansour.
Merci Nicolas.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
This was all you. Put your hands on my body and told me, you told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me.
Voilà, ainsi va le monde aujourd'hui. VOA Afrique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Gardez la conversation et c'est sur Facebook. Facebook VOA Afrique. Merci à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Bagassi Koura ici à Washington. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.